Ils n'avaient pas reçu la lettre qui leur disait que j'arrivais, parce que je l'ai peut-être envoyée un peu trop tard, je ne sais pas. Et ils m'ont vu tout à coup débarquer. On avait pu trouver leur maison grâce à l'aide d'un ami de Françoise Faure, qui, Françoise Faure, elle, organise aujourd'hui, s'occupe de ses actions de parrainage, m'avait tout raconté comment il fallait faire, et son ami Saïd nous avait emmenés jusqu'à Aïdé Camp et avait essayé de dire « Vous connaissez pas Awad Karake ?» Et finalement, de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'à leur maison. Et alors, je vous raconte pas la surprise impressionnante qu'ils ont ressenti en me voyant arriver. Comment c'est Catherine? Et c'était quelque chose d'impressionnant. Et comment ils voulaient tout savoir, où étaient mes enfants, pourquoi ils n'étaient pas là. Il fallait que je leur raconte tout instantanément. Et puis, c'était juste un premier jour. On a décidé de se revoir la semaine d'après, plus longtemps, de passer 2 jours chez eux. Ils avaient envie que je reste là pour dormir, pour partager leur vie au quotidien. Je le souhaitais d'ailleurs aussi, parce que être la reine d'un jour, c'est pas un rôle très facile à remplir, surtout quand il s'agit de manger, par exemple. C'est une chose impressionnante. Pour les honorer, il faut manger. Et quand, en douce, comme ça, en discutant avec Mohamed, qui est le mari de la deuxième fille de la famille, Faïza, qui parle anglais parce qu'il est professeur d'anglais, et je lui disais, non, mais je peux plus manger, Mohamed, explique ça à Soumia, qui était la mère de la famille. Il disait, mais chez nous, c'est comme ça. Quand les gens nous aiment, ils mangent. Et je lui disais, mais je peux plus. Il me disait, mais t'as qu'à manger grain par grain. Et c'est une leçon que j'ai retenue pour les jours suivants. Mais surtout que, à partir du moment où j'ai commencé à vivre le quotidien avec eux, il n'y avait plus forcément cet empressement à ce que je sois différente d'eux. Et passer 2 jours avec eux, ce fut un moment fantastique, à la fois les repas, à la fois les histoires de la famille, les plaisanteries, les gags. On raconte. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur les ils ont leurs Belges comme, enfin, ils ont leurs Palestiniens plouks comme nous avons nos Belges, et ils racontent toutes sortes de gags. On échangeait nos plaisanteries, et puis il y a aussi ce quotidien qu'on a envie d'échanger, l'école bien sûr de Awad, l'anglais qu'il apprend, les devoirs qu'il fait, et puis il y a aussi à savoir pourquoi les filles de la maison restent là. Il y avait Hanan, elle a 20 ans. Elle m'écrivait, je croyais, elle-même, mais en fait, c'était aussi Mohamed qui traduisait pour elle ce qu'elle écrivait, ou bien une de ses amies, parce que la dernière lettre que j'avais reçue, eh bien, Mohamed me dit, mais ça, c'est pas mon écriture. Hanan, qui c'est qui t'a écrit ça? Et c'était une de ses amies qui, elle, continuait d'aller à l'école, parce que Hanan avait échoué à un examen et ses parents n'avaient pas voulu qu'elle continue, ils n'avaient pas l'argent pour qu'elle puisse continuer. En l'occurrence, il aurait fallu qu'elle ait $40 par mois pour pouvoir continuer. Et la famille ne pouvait pas investir cet argent dans la poursuite. De même que Faïza, l'épouse de Mohamed, je ne sais pas quel âge elle a, mais je suppose qu'elle doit avoir 27-28 ans, je dirais. Mais Faïza a aussi resté chez elle, alors que ces femmes ont une énergie, un dynamisme qui pourrait remplir un rôle fondamental dans la construction de leur nouveau pays. Et puis elle reste chez elle, à ne rien trop faire, si ce n'est à participer aux tâches ménagères. C'était un petit peu difficile parfois de discuter, parce que bien sûr, on avait toujours besoin de la traduction de Mohamed, et il y a certaines questions, je n'avais pas vraiment envie que ça passe par la traduction de Mohamed. Alors, il faudra que j'apprenne l'arabe pour pouvoir parler avec elle ou trouver une femme qui puisse me faire la traduction pour la prochaine fois. Mais là, tout de suite, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve à Jérusalem, parce que j'ai envie de vous faire rencontrer une femme qui a un engagement très, très important. C'est Léa Tzemel. Elle est avocate, mais chose particulière, elle est israélienne. Et depuis plus de 20 ans, elle travaille, elle défend les droits de la personne, en particulier les droits des Palestiniens à Jérusalem. Il est 1h15, 12h45, et c'est l'heure de la prière. Perché sous le toit plat de notre auberge de jeunesse, au plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, mais on écoute les muezzins qui se répondent d'un minaret à un autre. Et je peux vous dire qu'à Jérusalem, il y en a beaucoup. Jérusalem, cette ville que tout le monde revendique, les Israéliens qui affirment que c'est leur capitale, les Palestiniens qui veulent que ce soit leur capitale, et puis je vous disais les religions, les chrétiens, les musulmans et les juifs qui en veulent faire de cette ville leur ville sainte. Et bien sûr, un enjeu incroyable dans la situation actuelle, enjeu qui devrait être aussi négocié dans le cadre des accords de paix d'Oslo et que Netanyahou bloque en ce moment complètement. Léa Tzemel, on m'en avait parlé, c'est Françoise Faure qui m'en avait parlé et elle m'avait dit, elle défend des femmes palestiniennes, il faut absolument que tu la rencontres. Alors j'ai tenté de rencontrer Léa Tzemel, c'est pas facile parce que vraiment Léa Tzemel, elle est pas souvent à son bureau, elle est tout le temps en train de bouger et même quand elle est à son bureau, il y a 10 personnes qui attendent dans le petit hall de l'entrée. Et même quand elle vous reçoit, elle doit s'interrompre 2-3 fois pour répondre au téléphone, pour donner une consigne à gauche à droite, répondre à une question. Finalement, je suis allée une première fois, j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je suis retournée une deuxième fois, j'ai attendu une heure. C'était l'occasion de rencontrer d'ailleurs une femme qui était là pour rencontrer aussi Léa Tzemel. Vous allez le voir tout de suite, vous allez l'entendre tout de suite. Mais je voulais absolument rencontrer Léa Tzemel et finalement nous avons réussi à nous parler. Alors c'est cette interview que je veux vous faire partager, cette rencontre. C'est en anglais, je vous traduirai au fur et à mesure cet entretien avec Léa Tzemel. Ça, c'est l'atmosphère du bureau de Léa.
Léa Tzemel, what has changed with the peace
process? Léa, qu'est-ce qui a changé avec le processus de paix pour la défense des droits de la personne dont vous vous occupez? Les choses vont mieux ou au contraire, c'est beaucoup plus difficile chaque jour? Dans les territoires occupés qui sont restés sous la loi israélienne, rien n'a changé sérieusement. Israël occupe toujours la majeure partie de la Cisjordanie, à part quelques villes les plus importantes. Et tout se passe comme d'habitude. Il y a toujours les tribunaux militaires, les détentions administratives, des gens sans arrêter et torturés par les services de sécurité israéliens. La vie est, je ne peux pas dire normale car elle n'a jamais été normale, mais la vie se déroule comme d'habitude pour les Palestiniens. Mais en ce qui concerne les droits de la personne que je défends comme avocate, les choses ont changé dans les territoires qui ont passé sous l'autorité palestinienne. Comme avocate israélienne, naturellement, je ne peux pas intervenir là-bas. Je ne peux pas défendre des gens qui sont arrêtés à Naplouse ou à Ramallah ou maintenant à Hebron, depuis que la ville a été restituée aux Palestiniens. Et il y a un système interne à la Palestine concernant les arrestations, les tribunaux, etc. Et là, nous avons de nouveaux problèmes de respect des droits de la personne qui ne sont pas prêts de se résoudre.
Until now,
Jusqu'à maintenant, les autorités palestiniennes ne sont pas bien organisées. Et les gens arrêtés par ces autorités n'ont aucun droit. Il n'y a aucune réglementation concernant les arrestations. Les gens sont aussi torturés pendant qu'ils sont interrogés par les services de sécurité palestiniens. Le système législatif ne fonctionne pas du tout comme il devrait.
People are also being tortured while interrogated by the Palestinian security services. The legal system is not functioning as it should function.
Mais j'espère que c'est une situation intermédiaire, mais c'est en ce moment grave et très négatif. J'ai aussi entendu dire que des gens avaient été condamnés à mort. Oui, il y a des gens condamnés à mort par les tribunaux militaires palestiniens, mais je ne pense pas qu'ils vont les exécuter, car certains ont aussi été condamnés à mort par les tribunaux israéliens et n'ont pas été exécutés. Mais ça existe. Il y a beaucoup de gens qui viennent chaque jour dans votre bureau, Léa Tzemel, des gens, des hommes, des femmes, mais surtout des Palestiniens. Vous êtes israélienne, alors comment se fait-il que vous ayez choisi de défendre ces gens ? Mais c'est comme ça depuis des années. J'ai commencé en 1972 à défendre les Palestiniens contre les autorités israéliennes. Et comme je vous l'ai dit, le travail n'a pas changé. Nous nous affrontons toujours au même problème. Excusez-moi d'insister, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir de défendre des Palestiniens comme avocate israélienne ? C'était les gens les plus dépourvus avec le moins de droits dans ce pays, et bien sûr que si comme avocate je décide de défendre les droits de la personne, je dois aider ceux qui n'ont pas d'autres moyens de défense. Alors ça s'est fait naturellement. Vous avez choisi la HTML de défendre en particulier les femmes palestiniennes qui ont été emprisonnées. Peut-être pourriez-vous m'expliquer d'abord pourquoi elles sont arrêtées. Il semble que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des enfants. Alors pourquoi sont-elles arrêtées? Quelle est leur lutte spécifique? Les femmes palestiniennes ont toujours été engagées dans le combat général pour la libération de la Palestine. Et aussi loin que je me souvienne, et à n'importe quelle période, il y a toujours eu au moins 30, 35, 40 Palestiniennes en prison. Je les défends dans toutes sortes de cas. Par exemple, parce qu'elles appartiennent à une organisation considérée comme illégale par les Israéliens ou pour toutes sortes d'activités. Mais quelles organisations sont illégales? Par exemple, les Femmes pour la Paix? Quand elles ont rejoint le Fatah à une certaine époque, ou le Jihad, les Hamas, le FDLP ou le FPLP, tous ces groupes considérés illégaux. En plus, n'importe quelle manifestation est illégale, n'importe quelle réunion est illégale. Alors il y a beaucoup de cas où ces femmes peuvent être accusées. Et effectivement, les femmes sont actives.
But yes, women are active. Women are active.
Les femmes sont actives en participant à des actions militantes, mais aussi d'une façon, je dirais entre guillemets, passive, lorsque leurs maris, leurs fils sont arrêtés. Les femmes sont toujours au premier rang. Elles sont toujours les premières pour chercher un avocat ou une avocate, pour s'occuper des besoins de leurs fils, pour venir au tribunal, etc.
Of the sons' needs to come to the court, etc.
Elles sont très actives. Prenons l'exemple d'Abir, cette jeune femme qui a plaidé coupable après avoir été accusée d'être à la tête d'un couple d'étudiants du Fatah à l'université de Birzeh.
She was charged and pleaded guilty.
Elle était la responsable et elle a plaidé coupable pour être à la tête de ce groupe qui menait des actions armées, etc.
Including military training, etc., etc., and many activities. So women are active.
Oui, les femmes sont actives. Il y a aussi d'autres femmes qui ont été accusées d'être responsables pendant l'intifada dans différents lieux des territoires occupés, à Gaza par exemple, et même à Jérusalem. Est-ce que ce sont des femmes jeunes habituellement? La plupart sont jeunes. Et on en trouve dans toutes les classes sociales? Oui, toutes sortes de femmes, de toutes les classes sociales, des femmes mariées ou non, des étudiantes, etc.
شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من الهب شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من الهب.
Lorsque des femmes sont emprisonnées, est-ce qu'elles subissent des traitements spéciaux parce qu'elles sont femmes, comme les violences sexuelles? Les femmes dans une telle culture peuvent être plus vulnérables pendant les interrogatoires à cause de leur réputation ou bien des contacts avec les hommes habituellement interdits dans une telle société, etc. Mais après leur jugement, les femmes sont normalement dans des prisons différentes ou dans des sections carcérales pour femmes seulement. Donc on ne peut pas parler de harcèlement sexuel dans cette première étape. Mais il peut y avoir des menaces sexuelles dans cette première phase. Et je me souviens en effet avoir entendu autrefois des plaintes concernant le harcèlement sexuel pendant les interrogatoires.
كم عصفت فيها خيول الهول والرعب فالأرض وجه مذبحة والجو أمطار من الشوب لم يبقى غصن غير منتهب لم يبقى وجه غير مستلب.
What happened especially in relation with Abir?
Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé en particulier autour d'Abir, cette jeune femme dont nous parlions tout à l'heure? Nous avons appris que les femmes emprisonnées ont refusé d'être libérées alors qu'elles allaient l'être parce que les Israéliens refusaient de libérer Abir, justement, et je crois une autre femme. C'est une histoire merveilleuse et c'est une vraie histoire de solidarité. Selon les accords avec les autorités palestiniennes, toutes les prisonnières devaient être libérées. Mais bien qu'Israël avait signé l'accord, ils n'ont pas voulu le concrétiser, ils l'ont reporté. Puis ils voulaient libérer seulement les femmes qui n'avaient pas participé à des actions graves.
So they separated between women.
Ils ont cherché à séparer les femmes ayant participé à des actions graves, ayant du sang sur les mains, comme ils disaient, et celles qui n'avaient pas directement été liées à de telles actions. Ils ont finalement voulu libérer toutes les femmes, sauf 4 ou 5 d'entre elles. Et les 20 autres, qui devaient être libérées, en signe de solidarité, ont refusé d'être libérées. Et on dit qu'elle resterait en prison jusqu'à ce que toutes soient libérées. Et elles sont restées en prison pour plus d'un an encore. C'était un geste incroyable de solidarité. Et quel fut donc votre rôle dans une telle situation? Comment les femmes ont-elles pu être en relation avec vous à ce moment-là? Parce que c'est une action collective, alors comment vous faisiez? J'ai trouvé ça magnifique. J'ai essayé de faire publier des infos autant que possible pour qu'on en parle. Et il y avait d'autres organisations de femmes très actives tout autour. Et finalement, ce fut magnifique quand elles furent toutes libérées. Mais avec une manifestation de colons à la sortie. C'est sûr, la droite israélienne a toujours été contre cette libération. Mais elles ont été finalement libérées. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus d'Abir? J'espère beaucoup la rencontrer, mais... Je suis sûre qu'elle vous racontera tout elle-même. Elle est vraiment une femme unique en son genre. Elle était très appréciée par les membres de son groupe qu'elle a organisé et dirigé. Elle était très forte et toujours très, très optimiste. C'était vraiment encourageant de voir son optimisme. Elle a été condamnée à 17 ans et un mois de prison pour action terroriste contre des colons. Et elle est restée presque 5 ans en prison. Et c'est le processus de paix qui a permis sa libération?
Qui sait?
Je ne sais pas. Il y a eu des gens qui ont été libérés avant les accords de paix. C'est une lutte de libération nationale, vous savez, il y a des hauts et des bas. Vous avez l'impression que les choses vont changer ou devenir plus mauvaises. Les gens sont si fatigués que rien n'est changé jusque-là. Les affrontements violents vont reprendre. J'en sais rien, je ne sais pas. C'est vraiment la très grande question du moment. On ne sait pas. On est sur la corde raide, ça peut verser d'un côté comme de l'autre, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une crise maintenant. En tant qu'avocate des droits de la personne, est-ce que vous travaillez avec des associations de la société civile? Oui, avec beaucoup de groupes des droits de la personne. Nous coopérons souvent. والشهوب مذبحات والجو أمطار من الشهوب لم يبقى غصن غير منتهب لم يبقى وجه غير مستلب Est-ce que vous pourriez me dire quel est aujourd'hui pour vous le problème principal des Palestiniens? À quoi ils sont confrontés? Le problème principal aujourd'hui, c'est Jérusalem. Et dans ce cas-là aussi, on parle des femmes. Israël essaye de vider Jérusalem, de déporter le plus de Palestiniens possible de Jérusalem. Et les femmes ayant un droit de résidence à Jérusalem, qui ont épousé un homme qui n'a pas ce droit, ne peuvent pas le faire venir vivre avec elles à Jérusalem, ni leurs enfants. Et ils sont ainsi forcés par différentes mesures bureaucratiques à quitter Jérusalem. Nous appelons cela des déportations silencieuses, mais il y a déportations, et principalement des femmes et des familles. Voilà, c'est ma principale préoccupation en ce moment. Quand ces femmes doivent quitter Jérusalem, où vont-ils? En Cisjordanie, à Amman, en Jordanie, n'importe où. (Musique)
وفاني يوم شاف القمر قابل